Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir, comme à l'accoutumée, la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio un grand interprète de la musique klezmer, qui depuis 35 ans laboure les terres de cette musique à part, et d'autant plus qu'il a à son actif un instrument pas comme les autres. Pour une fois, ce n'est pas un clarinettiste, non, c'est un pianiste. Alors si je vous dis klezmer, si je vous dis piano, bien sûr, vous pensez immédiatement à Denis Cugnot. Denis Cugnot, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Alors votre nom est évidemment bien connu du grand public, mais votre parcours l'est peut-être un peu moins. Vous connaissez peut-être la chanteuse Hélène Engel.
Oui, oui.
Alors, notre dernière émission d'avant l'été était consacrée justement à découvrir ses faces cachées. Et cette fois-ci, c'est à votre tour, vous êtes cerné. Nous allons percer votre mystère et découvrir donc les faces cachées de Denis Cugnot, le roi du piano klezmer, pour paraphraser le titre d'un de ses nombreux albums que vous avez fait avec Guillaume, je crois, qui s'appelait New King of Klezmer. Donc Denis Cugnot, New King of Klezmer, piano.
Oui, mais c'était déjà au second degré avec Guillaume, et là c'était la façon qu'ont les tziganes d'Europe centrale et que Naftoulé Bandwine avait repris de se qualifier, de s'autoproclamer, mais il faut le prendre avec de l'autodérision.
Tout à fait, je me rappelle de la pochette, absolument géniale. Alors, trêve de bavardage, avant de rentrer donc dans les confidences et d'apprendre à mieux vous connaître, nous allons écouter tout de suite le début d'une pièce pour piano intitulée Coiline, qui est extrait de votre album solo Perpetuel Klezmer, publié chez Buda Music en 2012. Coiline, une une superbe pièce de piano interprétée par Denis Cugnot dans son album Perpétuel Klezmer, publié chez Buda Musique. Alors, on parlera après de votre discographie importante, 12 disques, je crois, mais avant toute chose, que signifie le titre de cette pièce Calling? C'est quoi? C'est le nom d'une danse
ou ça... Non, c'était... Alors bon, tout ça est, comme vous le savez, très compliqué à reconstituer. Donc c'est un enregistrement qu'on a de Mishka Tsiganov, l'accordéoniste, qui était un enregistrement en solo. Et donc il y a une chanson Coiling qui s'appelle Coiling sur le charbon. On ne sait pas trop, vous savez bien, Hervé, c'est une telle complexité, toutes les sources ont été ont disparu. Donc c'est l'intitulé tel que Mishka Tsiganov la jouait, Coiling.
Oui, Coiling, effectivement, ça signifie charbon. J'avais pas fait le rapprochement. Voilà. C'est peut-être une chanson de mineur ou de choses comme ça.
Oui, c'est sans doute une chanson de travail et j'ai, bon, en dehors du fait qu'elle est très belle, ma petite fille, parce que je suis déjà grand-père, elle s'appelle Coiline, donc elle est dédiée à Coiline.
Ah, d'accord, tout est à double sens, alors.
Oui, dans les mystères.
D'accord. Alors, vous inquiétez pas, j'aurais plein d'autres questions pièges comme ça à vous poser sur des titres ou vos connaissances, mais je sais que vous connaissez beaucoup. Mais alors, je voudrais peut-être, avant d'aborder votre parcours, que vous rappeliez à nos auditeurs, en quelques phrases, ça c'est une gageure, qu'est-ce que c'est que la musique klezmer, en fait?
Ah. C'est-à-dire que c'est pas une gageure, c'est vraiment un grand débat que j'ai avec d'autres musiciens.
Tout est dans le silence, là, en fait. C'est tellement complexe qu'effectivement...
Oui, c'est complexe parce que pour moi, c'est un mythe qui naît sous nos yeux, enfin, depuis 30 ans, 40 ans. Donc, il y avait, comme vous l'expliquez dans vos conférences vous-même, Hervé, il y a toujours eu partiellement une musique instrumentale de musiciens ambulants, de baladins, dès le Moyen-Âge, que vous avez tout à fait écrit à diverses reprises. Maintenant, l'acception de Klezmer, telle que... Il y a depuis le revival américain, la revitalisation des années 74-75, et je reviendrai sur la date, c'est important, c'est une sorte de reconstitution d'une histoire qui, de toute façon, bon, était détruite. C'est, comme dit Roland Barthes, l'absence d'histoire, et moi j'ajoute la destruction de l'histoire, est propice à l'émergence de mythes. Donc le mythe actuel, c'est que c'était la musique dans tous les villages, dans tous les shtetls, des musiques pour les fêtes, les mariages, l'arrivée d'un rabbin. Sauf que, évidemment, moi je me suis penché sur toute la littérature yiddish fin 19e siècle, c'est-à-dire au moment où les grands écrivains surgissent, ces poètes, qui décrivent la vie du shtetl, et il y a quand même très peu d'arrivées de musiciens klezmer, de klezmorim. Il y a parfois un ou deux, bon, et comme vous le savez, Hervé, c'était des musiciens qui jouaient pas très bien et qui étaient, bon, pauvres, mendiants, et voilà. Donc, en quelques mots, je dirais, bon, c'est une musique qui est en train de naître sous nos yeux, qui est une musique avec des caractéristiques très juives sur la mélodie, sur l'âme, sur la façon de dire les larmes et la joie, mais qui est une musique récente qui s'appuie sur des souvenirs imaginaires. Voilà, en quelques mots.
C'est une très très belle définition. Et alors, on va y revenir, mais je vous propose de faire tout de suite une deuxième pause musicale avec une fantaisie roumaine qui est extraite cette fois-ci de votre album solo, donc Confidentiel Klezmer, toujours publié chez Buda Musique, mais qui date de 2007. Alors, à titre d'information, une fantaisie, c'est une mélodie qui est souvent nostalgique, comme on l'entendra, qui n'était pas destinée à être dansée, parce que souvent la musique dite Klezmer, ce sont des danses, hein, mais donc une musique, là, une fantaisie destinée à être écoutée, par exemple, lors des repas de mariage. Thank you. Un extrait de la fantaisie roumaine, donc interprété par Denis Cugnot dans le CD Confidentiel Klezmer. Si vous voulez entendre la suite, il faut vous procurer bien sûr les disques de Denis Cugnot. Vous trouverez tous les renseignements sur son site, on en donnera l'adresse à la fin de cette émission, ainsi que sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, bien sûr. Alors Denis, moi j'adore ce morceau, je trouve votre interprétation absolument extraordinaire, fascinante je dirais même. On en oublie le piano. Au passage, je crois que vous avez une formation de pianiste classique, en fait.
Ouais.
Mais alors, ce que vous faites n'est pas du tout classique dans cette pièce. Et quand on parle d'interprétation, le mot interpréter veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que vous avez un thème, vous avez quelque chose que vous interprétez à votre sauce et vous en faites complètement autre chose. Et on ne sait plus du tout à quel instrument on a affaire, en fait. C'est plus du piano, ça ressemble à du cymbalum, ça ressemble à... C'est du Denis Cugnot, en fait. C'est assez incroyable. Alors, une question sur l'interprétation. Comment vous faites quand vous avez comme ça un morceau d'où vient cette mélodie? Question piège, encore une, tiens.
Alors, cette mélodie, elle vient effectivement d'un fond qu'on a eu la chance de découvrir. Il y a une justement à partir de ce revival américain, donc là ça vient encore là c'est pas les premiers enregistrements, mais c'est enregistré dans les années 30 dans la version cymbalum violon.
Alors j'ai une petite surprise pour vous parce que j'ai retrouvé cette version originale, je vous la ferai écouter tout à l'heure et vous entendrez aussi quelque chose un petit peu en parallèle, c'est très intéressant par rapport à ce que vous avez fait de ce morceau. Et alors qu'est-ce que vous faites concrètement donc quand vous entendez cette version originale enregistrée, cette version originale, une interprétation de cette mélodie qui a été fixée dans les années 20 ou 30 sur disque, et vous en faites quoi alors? Comment vous arrivez au résultat qu'on a entendu?
Les thèmes que je choisis sont des thèmes qui m'obsèdent, donc en fait je rentre, je connais comme souvent les musiciens traditionnels quelques centaines de thèmes et puis je les fais tourner, tous les jours, toutes les semaines, alors les 300, 400, 500, mais petit à petit, ils deviennent mes idées fixes. Et donc, j'ai fait tourner comme un standard de jazz, comme une grille. Je cherche. Et donc, c'est basé sur une passion pour cette mélodie, celle-là, comme celle que je choisis, et puis celle que je n'ai pas encore enregistrée, et qui tous les jours, ça devient la recherche. En fait, c'est une recherche au piano, mais c'est vraiment comme... comme font les jazzmen.
C'est pas écrit du tout. C'est...
Alors, petit à petit, et justement, quand je précède un concert, quand le temps vient de présenter, de proposer en concert, et a fortiori en enregistrement, là, se met à se fixer complètement la structure et les moments éventuellement plus libres, plus ouverts. Mmh. Et donc, en fait, oui, c'est évidemment une question que je vous remercie vraiment de me poser. C'est un travail. De routine, musicien routinier.
Musicien de tradition orale, routinier, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train d'inventer, de se réinventer, c'est ça qui est assez passionnant. Pour un ingénieur du son, pour avoir fait des fois des enregistrements, c'est parfois un cauchemar quand la musique change tout le temps, parce que quand on reprend pour réenregistrer, on n'a jamais deux fois la même chose.
Dans ce cas-là, on ne reprend pas. C'est un disque qui n'était pas du tout monté.
C'est du live, presque. Tout à fait. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que cette mélodie, quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais je la connais. Effectivement, elle figure dans un des disques qui a été publié par l'Institut européen des musiques juives dans sa collection découverte, le disque Yiddische Fantasie, donc publié par le trio Yiddische Fantasie, mais dirigé par le violoniste Amit Weisberger.
Ouais.
Et lui donc constitue la source d'un disque enregistré en 1911 par le violoniste Joseph Solinski, qui était en duo avec un cymbalum. Et je me suis amusé à faire un petit montage pour montrer un petit peu de quoi vous êtes parti et ce à quoi vous aboutissez. Donc on va l'entendre tout de suite. Donc on voit ce petit montage parce que lui part du disque également, et donc cet air pour violoncelle et cymbalum, et on passe tout de suite après à Denis Cugnot.
Thank you.
deux versions donc, de cette fantaisie romaine interprétée dans un premier temps par Amit Weisberger dans le CD Yiddish et Fantasie, et puis la version de Denis Cugnot, donc extrait de Confidentiel Klezmer. La juxtaposition m'a paru intéressante parce qu'on arrive à retrouver dans votre jeu pianistique à la fois donc, le violon qui a la mélodie, mais en même temps ces sonorités de cymbalum avec ces harmoniques qui ressortent. Je ne sais pas comment vous faites, du tout, mais je trouve ça assez fantastique. Alors, la question qui me vient, moi j'avoue que avant de vous entendre, j'avais jamais entendu de pianiste klezmer. Est-ce que vous avez des alter ego dans le monde, en France, ou est-ce que vous êtes le seul, le pianiste klezmer unique au monde?
Non, mais ce qu'il y a, c'est évidemment en Europe, il n'y avait pas de pianiste jouant des musiques traditionnelles, d'ailleurs dans aucune musique traditionnelle, musicien ambulant, musicien de fête. Donc il y a effectivement accordéon, cymbalum qui remplissait guitare, le duo guitare contre basse. Mais ce qu'on voit, c'est dans l'arrivée des immigrants, dans l'immigration 1885-1914, donc sur une immigration en gros de 20 millions de personnes d'Europe, il y a 2 millions et demi de juifs d'Europe, là il y avait quelques musiciens, et dans les enregistrements de 1920, on voit arriver des pianistes, mais en accompagnement. Hein, parce que là déjà bon, c'est toutes les décontextualisations que vous connaissez, donc décontextualisation c'est plus le pays, ça passe en enregistrement, ça passe en concert, l'histoire de la musique instrumentale qui à l'époque s'appelle musique populaire juive, enfin ou musique yiddish, elle est le fruit de 4 ou 5 décontextualisations. Et là, le piano arrive, mais comme instrument d'accompagnement. Alors, c'est sûr que il n'y a pas eu de pianistes qui ont développé l'idée du solo, du solisme. Et là, maintenant, oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, aux États-Unis.
Dans le revival qui a commencé, comme vous l'avez dit, aux États-Unis dans les années 1974-75.
Et je disais pourquoi c'est important ces dates, parce que Gera Feynman avait déjà enregistré, et il appelait ça la Jewish Soul Music, la musique de l'âme, la soul music. Et c'est important parce que ce premier disque de Gera Feynman, c'est 71-72. Et c'est important parce que les Américains continuent à détester Gera Feynman, à penser que c'est une musique très désagréable, qu'il n'a rien compris. Et tous mes partenaires, que ce soit Nano Pellet ou Yom, Nano c'est ma génération et Yom c'est une génération de moins, et tous les gens avec qui je travaille sont admiratifs du travail de Gera Feynman. Et donc c'est capital, parce que Gera Feynman, c'est l'âme yiddish, c'est l'âme klezmer, c'est l'âme d'Europe. Et les Américains, nos confrères américains, qui ont fait un travail remarquable de revitalisation et puis de retrouver les archives, de les éditer, vos collègues du YIVO, mais pour eux, le klezmer, c'est déjà cette fusion entre des immigrants arrivant avec leur culture, notre culture d'Europe, mais déjà mélangeant au goût du divertissement, au goût du jazz. Et ce qui fait que pour eux, quand nous on joue klezmer en Europe, pour eux c'est pas du tout du klezmer. Et donc le débat Gera et les klezmerim américains, il est capital. Il est capital parce que mon positionnement, c'est Gera, c'est-à-dire l'âme, c'est le débordement de l'émotion, et que moi j'ai travaillé sur ces musiques parce qu'elles avaient été détruites, et c'était mon œuvre de mémoire, plus que mon devoir, c'était la mémoire que je voulais redonner aux poètes et aux musiciens qui ont été assassinés. Donc je ne suis pas du tout sur une chose de divertissement, c'est pour ça que mon klezmer est assez peu joyeux, puisqu'il rappelle, il essaie de dire tout ce qui n'est plus et qui ne sera plus jamais. Et comme j'étais pianiste, je n'allais pas me mettre à l'accordéon, j'ai voulu utiliser donc justement sur un côté non folklorique, c'est-à-dire d'utiliser la capacité du piano à être un instrument classique, avec tous ces jeux possibles, toutes ces sonorités, toutes ces harmonies, comme vous le disiez, pour essayer d'exprimer ce manque. Et ce monde artistique, poétique et musical a jamais perdu. Donc dans ce cas-là, j'ai pu me permettre le piano parce que je pense que si ce monde n'avait pas été détruit en Europe, obligatoirement des pianistes auraient surgi. Il y a aussi, vous savez, là dans le film que les Américains avaient fait, Léopold Kozlowski, chef d'orchestre et pianiste qui était encore en vie à 95 ans et qui lui était un chef d'orchestre juif polonais et qui joue du piano. Mais c'est un piano d'accompagnement, c'est un piano, c'est un magnifique musicien, Léopold Kozlowski, mais il a fait un autre travail que moi. Moi, j'ai vraiment développé comment accompagner et comment jouer en solo de façon contemporaine, en respectant l'histoire.
Alors, Vous avez évoqué tout à l'heure Nano Paley, on a parlé des années. C'est vrai que ce revival américain, donc à partir de 72, vous avez parlé de Jorah Feinman, d'ailleurs on va en parler après. Et puis il y a les klezmorim aussi, enfin tout ça c'est au milieu des années 70. Et en France, ça commence souvent, comme souvent, avec 10 petites années de retard par rapport aux États-Unis. Et donc en 83, vous rencontrez Nano Paley, enfin déjà à partir de 83, et vous faites des duos. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire et les quelques dates, parce que ça commence en 83, vous voyez, on est en 2017, donc quand je parlais presque 35 ans, on est tout à côté. Comment ça vous est venu de ces duos avec Nano Paley?
Merci beaucoup pour cette question. Toutes vos questions me touchent. Avec Nano, on se connaît au milieu des années 70 dans des groupes de jazz et d'improvisation libre. Ce qu'on pouvait appeler le free jazz français, c'était aussi encore avec 10 ans de retard sur le free jazz américain. Et donc on sympathise, on devient très très proche, mais on est notre idiome, notre travail, c'est le jazz et puis cette fascination qu'on a déjà pour les grands jazzmen traditionnels, aussi pour ce courant du free jazz qui est un courant politique, c'est le courant de nouveau du mouvement de libération des Noirs. Et par ailleurs, on aime beaucoup, lui et moi, la musique classique. Donc il nous arrive, quand il passe un examen de clarinette classique, je l'accompagne et tout. Bon. Mais Nano est très très lié amicalement avec des musiciens juifs. Il connaît bien Philippe Gamplovitch avec qui il joue, il connaît Edishav Shafirovitz. Et Nano se met dans cette culture, lui il fait une acculturation, donc lui qui n'est pas juif, qui est né dans la Creuse, dans la souterraine, sans doute d'une tribu perdue en vérité, mais se met complètement à aimer être avec Yuval Misenmacher, avec Philippe Gamplovitch, avec Edith Schaff. Et donc, naturellement, notre amitié est de plus en plus intense. Et un jour, il me dit, tiens, là, j'ai quelques thèmes de... Mais il n'appelle pas ça klezmer. Il dit, j'ai des thèmes juifs, des thèmes racidiques. Est-ce que tu veux qu'on les joue? Et ça a changé ma vie parce qu'effectivement, j'ai reconnu beaucoup de choses qui étaient dans mon inconscient et dans mon émotion, entre autres, évidemment, les berceuses yiddish de ma mère. Mais donc, c'est vraiment venu par Nano Paley qui, lui... était un philosémite, mais qui connaissait ces musiciens qui étaient pré-klezmer en quelque sorte. Mais quand on a commencé le premier concert en 84, on savait pas comment nommer cette musique. Musique juive, musique racidique, on sait pas. Et puis surtout, on se demandait s'il fallait être payé, parce que pour nous, c'était un militantisme de mémoire. Donc, voilà.
Oui, d'ailleurs, mais alors vous enregistrez quand même 3 disques avec Nano Paley. Et ces 3 disques, vous parlez des titres, il y a quand même déjà... alors, il y a L'amour des Nigoun, donc déjà...
Ça, c'est le troisième.
C'est le troisième, c'est le dernier. Mais il y a également Nano Paley and Friends. Et par contre, en 89, vous l'appelez bien Musique des klezmorim et de leurs descendants. Donc,
voilà.
On voit un petit peu
C'est comme ça que je me suis trompé un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on m'envoie, quand on écoute mes conférences, des vieux amis, mes conférences qui doutent un peu du terme générique klezmer, ce qui ne remet pas en cause qu'il y avait des musiciens ambulants qui avaient et là on me dit mais c'est ta faute, c'est toi en France, et parce que j'avais oublié effectivement. Avec Nano, un jour on a dit tout compte fait, on pourrait appeler cette musique klezmer.
Mais ça vient de ce groupe américain, ce qui s'appelait les klezmorim aussi. Beaucoup de gens, moi je me rappelle avoir...
C'est les Américains qui ont... Et alors s'appuyant sur l'autre l'ethnomusicologue Moshe Beregovski, qui effectivement dès les années 30, et lui est mort en 62 je crois, dit on pourrait appeler cette musique instrumentale klezmer. Mais en sachant, le problème c'est que klezmer, les klezmorim en Europe, c'était donc des mauvais musiciens, et en plus c'était des mauvais garçons, c'était des gens haïs par la communauté, donc c'était un peu compliqué aussi de s'intituler mauvais garçon.
Non, le seul intérêt, en fait, c'est pas le seul intérêt, mais l'intérêt du mot klezmer, c'est que ça signifie en fait outil, instrument du chant, et on voit le rapport entre l'instrument et le chant qui est très fort, et finalement aussi, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, entre les modes de ces musiques qui sont souvent calqués sur des modes synagogo, parce que les musiques dites klezmer étaient avant tout destinées au mariage. Ça, c'était l'utilisation première. Ces musiciens jouaient pour les mariages. Et dans le mariage, tout était imbriqué. Il y avait bien sûr l'aspect festif des danses, mais il y avait également la cérémonie religieuse et les musiciens jouaient également. Alors, on va faire une autre pause musicale, parce que c'est le principe de cette émission, et on va justement écouter un duo, une chanson que vous avez enregistrée avec Nano Paley à la fin donc des années 80, et qui est justement, je pense, un hommage à Jorah Feinman, qui s'appelle Jorah Mon Amour. Alors on laisse parler cet amour, Jorah Feinman.
«
Un extrait de Jorah Mon Amour, une déclaration donc d'amour de Denis Cugnot et Nano Paëlet à Jorah Feldman, extrait donc du CD Musique des Klezmorim et de leurs descendants, toujours publié chez Buda Musique en 1989. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois que l'essentiel de votre discographie, pas moins de 12 disques, si j'ai bien compris, est paru chez Buda Musique. Alors j'en profite pour saluer au passage son directeur Gilles Fruchot, qui a beaucoup fait pour les musiques du monde et pour les musiques juives en particulier. Et cette parenthèse refermée, quand j'écoute ça, alors je trouve le jeu de Nano très sage par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, même par rapport aux crêpes, par rapport à tous ces petits ornements. On sent l'aspect encore classique, donc on mesure le chemin parcouru en fait depuis 89, ça fait 28 ans là aujourd'hui, mais on joue plus le klezmer comme ça vraiment, et je vois aussi tout le chemin que vous avez parcouru entre ces duos avec Nano Paëlet et toute votre discographie plus récente, vos expérimentations avec notamment des musiciens tels David Konopnicki, pardon, ou encore Yom, et puis il y avait des chanteurs bien sûr, Michel Tauber, Bruno Gérard, on va en parler. Je pense également au spectacle que vous êtes en train de préparer, une création mondiale qui s'appelle, je crois, Klezmer Transafricaine, et qui sera donnée le 12 novembre 2017 à l'occasion du concert de gala de l'Institut Européen des Musiques Juives. Je vous invite déjà à réserver la date du 12 novembre 2017, tous les renseignements sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, parce que vous avez promis que vous ferez vibrer la musique klezmer sur le groove de la musique africaine, sur fond de danse et de trance. Alors c'est tout un programme, donc si vous avez envie de vibrer, ne manquez pas cette création mondiale le 12 novembre. Mais alors, ma question, elle va être, en fait, vous avez évoqué tout à l'heure ce besoin de faire revivre quelque chose de disparu. Je pense que ça touche quand même, c'est sans doute, il doit y avoir derrière, il y a toujours une histoire familiale un peu douloureuse, comme c'est souvent le cas quand on fait des choses comme ça, comme sur un peu un fond de résilience, on se donne à fond. Et en même temps, il y a ce besoin qu'on sent chez vous d'explorer sans arrêt de nouveaux horizons. Alors, c'est dû à quoi, ça? C'est quoi votre histoire à vous?
Ah ben, une histoire, effectivement, c'est que toute la famille de ma mère, donc toute cette branche de ma mère, plus des trois quarts de la famille a été détruite de France, hein, fait partie des juifs partis de France, dont mon grand-père maternel, et j'ai été élevé je pense que dans le lait maternel, il y avait toute cette angoisse-là, et puis il y avait... Et donc oui, j'ai été vraiment l'inconscient et le lait maternel était très très présent, même si voilà, c'est ma mère cachait tout ça, mais c'est vraiment.
En général, plus ça a été caché, plus c'est ressorti dans les générations d'après.
C'était pas trop caché quand même.
D'accord.
Non, voilà, donc oui, il y avait ça, mais en même temps, ma mère était dans l'universalisme. C'était la musique classique, c'était la musique, la musique universelle, c'était la musique classique. Et évidemment, elle a détesté au départ quand j'ai commencé à vouloir travailler sur ces musiques qui pour elle étaient folkloriques et communautaires.
Alors vous avez écrit, ou plutôt dans un des entretiens qui a été retranscrit par François Sadi dans Trad Magazine, vous dites « Mon travail est de faire entendre un monde disparu à jamais et d'imaginer l'un des développements, l'un des possibles que la musique klezmer aurait pu proposer si elle était restée en vie dans les territoires originels. » Et vous dites même plus loin, vous souhaitez que la musique klezmer devienne une source d'inspiration, d'invention, d'improvisation pour de nombreux musiciens à travers le monde, de véritables standards en quelque sorte. Comme le jazz. Et c'est ce que vous avez fait, je pense, tout au long de votre carrière. Alors, j'ai trouvé une autre chanson d'un album, toujours de l'album confidentiel Klezmer, qui s'appelle « Belleville de Rancy » par Grenelle. Ouais. Alors, est-ce que c'est lié à cette histoire maternelle ou c'est quoi
là,
cette chanson?
De toute façon, effectivement, beaucoup de ma famille est partie par la rave du Veldiv. Mon grand-père avait été raflé en 1941 sur la rave du Billet Vert. Et donc un an au camp de Pithiviers à Prochvitz. Non, là c'est vraiment la musique du film d'Anne Quesman à laquelle j'ai participé, qui était qu'on a fait en 92. C'était la commémoration du 50e anniversaire de la rave du Veldiv.
Oui, parce que parmi vos casquettes, excusez-moi de le signaler, c'est que vous écrivez, enfin vous jouez aussi sur des musiques de films. Vous avez fait récemment le 25 mars 2017, je l'ai lu, vous avez joué sur la projection du film muet Esther de Zuzgorod, qui c'est à l'occasion de la promotion du Purim Spiel, la reconnaissance du Purim Spiel par l'UNESCO. Donc on voit votre nom partout. Hein,
et puis là, j'ai surtout eu la chance récemment de faire la musique d'ailleurs qui a été enregistré avec Yom pour le dernier film de Robert Bobert qui va paraître début octobre, qui s'appelle Vienne avant la nuit, et qui est donc un long métrage. Et donc là, oui, j'ai vraiment eu cette chance d'être associé à ce travail remarquable de Robert Bobert et que Yom accepte de jouer avec moi. Donc oui, c'est-à-dire que il m'arrive de faire des musiques à l'image d'artistes, de cinéastes, de documentaristes qui sont un peu obsédés comme moi par la question juive.
Alors, on écoute donc cette pièce Belleville Drancy par Grenelle, musique de film composée par Denis Cugnot et interprétée par lui-même. Un extrait de Belleville Drancy par Grenelle, donc musique de film pour le film d'Anne Quesemand qui s'intitulait, vous l'avez dit, du même nom, Belleville Drancy par Grenelle, un très beau film que je vous recommande de voir. Et donc là, vous êtes derrière le piano, c'est à la fois, il y a l'idiome klezmer qui est là, mais ça va bien au-delà de ça, il y a beaucoup de vous-même. Alors, vous avez exploré comme ça d'autres domaines avec des artistes excellents. Hein, alors, à la fois dans la chanson yiddish avec Michel Tauber ou encore Bruno Girard du groupe Bratsch, le rock et le punk rock, si je ne me trompe pas, avec David Konopnicki du groupe Otorino. Ouais. Et bien sûr, le klezmer un peu déjanté avec le clarinettiste Yom. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots rapides sur votre expérience avec notamment chacun de ces artistes?
Oui, alors, la spécificité de mon geste artistique, c'est que je peux travailler qu'avec des amis. Et en fait, c'est l'amitié qui fonde la collaboration, enfin, collaboration est un mauvais terme, qui fonde la création. Et la création renforce l'amitié. Donc, en fait... tous ces gens que vous venez de citer sont des très proches, c'est des gens qui me font vibrer.
Donc à chaque fois, ça part d'une rencontre, ouais. Et cette rencontre aboutit à une création.
D'ailleurs, sur la création que je vais pouvoir faire grâce à l'Institut européen des musiques juives là, pour son troisième gala, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une amitié naissante et de plus en plus forte avec Julien André, qui est un merveilleux percussionniste spécialiste de toutes les polyrythmies mandingues. Et cette amitié devait déboucher sur quelque chose, donc je lui ai proposé, et ça me touche beaucoup qu'il ait accepté parce que c'est un grand maître des polyrythmies. Mais voilà, c'est ça, c'est le débouché d'un fond affectueux et d'un fond affectif très fort.
Alors Julien André, je le salue au passage parce qu'il se trouve qu'on se connaît bien. On était dans la, j'allais dire, sous la même coupe du même maître Simra Arom, un grand ethnomusicologue spécialiste des musiques africaines. Donc on s'est côtoyé pendant de longues années et on sera ravis de le retrouver au concert de gala. Alors je vous ai préparé un petit montage encore, j'aime beaucoup faire ça, et qui est une espèce de parcours d'instantané sur ces différentes collaborations avec les différents styles de musique que vous avez expérimenté. Donc je vous propose de l'écouter tout de suite. On entendra dans un premier temps donc vous au piano avec Bruno Girard qui lui est interprète de chansons yiddish avec sa voix grave très caractéristique. Ouais, ensuite un deuxième morceau Nigun Shimen avec Yom, et puis enfin ce projet absolument pharaonique, si je puis dire, de Raga Klezmer qui dure 5 heures, on en reparlera peut-être, avec notamment David Konopnicki.
Ohnechem bin ich jung geblieben, s'hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein Trainsenior gehabt, in der Fremd, weit von meinen Säugen, hat in Schmutz mir die Gass der Zeugen gewonnen, ist von mir hawäulejat. Ich bin a Fremel, der feigste Marwicher, a kreuze Künstler, harbet leid unsicher. Das erste Mal, vers Gedenken bis in Deut, a rein in die Fiese, für a grünen Abräu, war nicht auf Margen, wie eine Prostiaten, gsieb neu bei Garge, schmutzige Magnaten. Ich bin sehr mehr reihe, wenn ich da pass am Magnat. Ich bin a Fremel, gora weile jat. Thank you.
Voilà comment on passe de la chanson yiddish la plus classique ou presque à une musique expérimentale de ce raga klezmer ou klezmer raga, une aventure qui dure 5 heures je crois.
Ça a été beaucoup plus long, hein. Ouais. C'est parce qu'en fait ça a été entre 6 et 8 quoi.
6 et 8 ouais. heures. Mmh. Alors il y avait, on l'a dit, Bruno Girard, David Konopnicki, Yom, Michel Tauber ouais. et bien sûr Denis ouais. Cugnot. Alors c'est très difficile de faire entendre tout ce que vous avez fait en si peu de temps. Alors j'ai juste une dernière question. Vous m'avez dit un jour, parce que là vous avez fait tellement de choses que j'en suis bouche bée, que vous dormiez à peine 5-6 heures par nuit parce que vous leviez vers 5 heures du matin
oui, oui,
pour faire 2-3 heures de piano. Non, quand même pas à ce point-là, je suis masochiste, mais moins quand même. Et c'est vrai c'est,
oui, oui,
c'est,
oui,
oui, oui, oui, comme ça, tout simplement. Bah, si tout le monde peut le faire, c'est formidable. Alors, j'ai oublié de dire que vous avez bien sûr joué, alors ça c'était il y a longtemps, avec le groupe l'Orient Express Moving Schnorrer, ça remonte aux années 95.
Ouais, ça a été créé en juin 95 et moi je suis parti à l'automne 98.
Alors on va juste entendre un extrait de ces musiques-là parce qu'on ne les a pas entendues. Donc vous êtes au fond là, il y a beaucoup de gens qui vous couvrent, mais on vous entend un tout petit peu. On entend donc un morceau Schneider und Schuster, il faut que je réalise.
Schuster. Ouais.
Schuster du groupe Orient Express Moving Schnorrers. Un bref extrait, parce que malheureusement le temps passe très vite, donc de ce disque qui s'intitule Les lendemains de la veille, donc interprété par l'Orient Express Moving Schnorrers, qui était cofondé d'ailleurs par Denis Cugnot et Philippe Brieg, dans une période faste aussi des années 95, où on redécouvrait toute cette musique grâce notamment à notre amie Lise Goodman, qui officie dans cette radio. Alors malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, notre émission va devoir se terminer. Denis Cugnot, je voulais vous remercier infiniment d'être venu dans ce studio.
Merci beaucoup Hervé, merci.
Et on vous retrouve bien sûr donc le 12 novembre 2017 à 17h30 à la salle Cortot, c'est dans Paris, dans le 17e arrondissement, pour la création mondiale de votre nouveau spectacle Klezmer Transafricaine. Donc vous serez entouré de Julien André, on en a parlé, aux percussions africaines, Jean-Philippe Viret à la contrebasse et la participation tout à fait exceptionnelle de la danseuse africaine Aminata Traoré, qui explorera donc cette rencontre entre les musiques klezmer et africaines. Et votre prestation sera précédée d'une première partie de musique classique avec des artistes de talent, Virginie Constant au violoncelle et le pianiste Simon Zawi, qui nous interpréteront les plus beaux morceaux de la musique juive. Pour plus de renseignements, vous allez sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org. Et c'est également sur ce site que vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes, et bien sûr sur la rubrique podcast de Judaïque FM. Au micro, Hervé Rotten. David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Le sugar.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I'm